Chapitre 1. La première gorgée de bière. C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière peut-être retrouve, avec la désillusion de finir, un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée, comme elle semble longue, la première gorgée, on la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale, le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. On voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. C'est comme ça que Philippe Delerme vient de nous décrire ce moment précis où le plaisir s'évapore. C'est le plaisir minuscule, le tout petit qui ne dure pas longtemps. Celui qui s'épanouit puis s'évanouit dans nos têtes, entre nos doigts, sur notre langue. Et puis sans vraiment s'en apercevoir, il a disparu. On a tous vécu ce moment. On est attablé, une bière en face de nous. Plein d'enthousiasme, on s'empare du verre pour profiter de cette boisson. On la boit, on est heureux. Et puis, on parle avec ceux qui nous accompagnent. On allume une cigarette, on arrange différemment nos jambes sous la table. En fait, on fait à peu près tout ce qu'on veut jusqu'au moment où l'on boit la deuxième gorgée. Sauf que cette seconde gorgée n'égalera jamais le plaisir que nous a offert la première. Et pourquoi ? Comment est construit ce plaisir très spécifique de la première gorgée de bière ? Chapitre 2. Pourquoi le plaisir ? Les philosophes ont toujours étudié le plaisir, que ce soit pour le justifier sans réserve ou au contraire se convaincre du mal qu'il peut représenter. Mais en règle générale, ils s'accordent tous pour en expliquer la source. Épicure, par exemple, nous enseigne dans la lettre à Ménécée que
« Nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Lorsqu'une fois nous y avons réussi, toute l'agitation de l'âme retombe. Nous n'avons en effet besoin du plaisir que quand, par la suite de son absence, nous éprouvons de la douleur. »
Nietzsche ajoute que le plaisir est certes le remède à la souffrance, mais que c'est aussi la souffrance en elle-même qui nous procure le plaisir.
C'est le mépris de l'existence qui crée le mal de vivre. S'il y a des souffrances dans l'existence, elle contient cependant des forces insoupçonnées de création. C'est ça la leçon de Dionysos. Mourant et renaissant, il figure la vérité de l'existence, quand on vit généreusement et sans retenue.
En tout cas, le plaisir vient de la souffrance selon nos penseurs. C'est-à-dire que l'on ne veut pas vivre l'âme troublée, qu'on ne veut pas souffrir et que le plaisir sera une forme de remède. Le remède sera donc cette bière, dans son entièreté, donc de la première à la dernière gorgée. Mais si cette bière arrive à être à la hauteur pour être l'antidote contre notre peine, pourquoi le plaisir que nous en tirons semble lui si court ? Si court que finalement il ne dure que le temps d'une gorgée, la première. Chapitre 3. Un remède bien réfléchi. C'est bon, la première gorgée est bue. Mais là, on nous a dit que tout le meilleur était pris. Et pourquoi tout le meilleur est pris ? A priori, il manque quelque chose dans cette histoire. Revenons en arrière. D'abord, il a fallu choisir la bière. Une qu'on connaît déjà. Ensuite, il a fallu décider de l'endroit où s'asseoir. Enfin, commence le rituel, choisir le verre, décapsuler la bouteille et verser la bière. Vient alors le moment fatidique. Le nectar est à notre portée, le verre est à nos lèvres. On se félicite de notre choix de breuvage, de notre chaise, de l'heure qu'il est. On boit la gorgée et puis petit à petit, l'euphorie passe. Il y a la deuxième gorgée qui suit, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout est bon pourtant. Tout est comme on l'avait imaginé, pensé, planifié. On devait être aussi heureux pendant toute la bière. C'était ça le deal. C'était la bière qui nous faisait plaisir, non ? Et si finalement, c'était pas la bière ? Si, c'était plutôt ce qu'il y avait autour. Toute l'attention, toute la préparation, l'anticipation. C'est ça. C'est l'anticipation depuis le début. En fait, on est déjà content de cette première gorgée depuis le moment où on a commencé à y penser. Il y a peut-être déjà quelques heures qu'on réfléchit à aller boire un coup. On avait une petite idée de ce qu'on allait boire et ça ne pouvait pas être une bière qu'on ne connaissait pas. Parce que sinon, on n'aurait pas pu anticiper le goût. On n'aurait pas pu anticiper qu'elle allait nous plaire, cette bière. Alors on n'aurait pas eu le contrôle de nos sensations. Finalement, le véritable plaisir, ce n'est pas la bière, c'est l'anticipation. À partir de là, c'est beaucoup plus simple de comprendre comment le plaisir de la première gorgée peut s'échapper aussi vite. On était heureux de savoir ce qui allait nous arriver. parce que lorsqu'on anticipe quelque chose, rien de mal ne peut nous arriver. Il était là, le plaisir. Il était dans le confort de savoir ce qui allait se passer. On se rêvait déjà à chaque étape. Et puis, une fois que le moment est arrivé, que toutes les cases étaient cochées, l'anticipation n'avait plus lieu d'être puisqu'elle s'était réalisée. L'anticipation disparaît, le plaisir aussi. C'est le retour dans l'inconnu, là où le contrôle nous échappe de nouveau et où, potentiellement, la douleur peut revenir. Mais en attendant, on a été heureux. Notre plaisir n'a finalement pas été si court, il s'est étalé sur plusieurs minutes, plusieurs heures, voire des jours entiers. Sa disparition, par contre, elle a été nette, l'affaire de quelques secondes. Le plaisir ne pourra alors revenir que lorsque le temps de la rêverie sera de nouveau là. Mais pour le moment, nous sommes au temps du bonheur amer, celui où l'on boit pour oublier la joie de la première gorgée.